Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20e épisode de la saison 2 du podcast à la coupe qui vous est propulsé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la bière à la coupe, le mon minou. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est disponible entre autres sur Facebook, sur YouTube, Spotify, Twitter et nouvellement Instagram. Alors, on a du contenu qui est du contenu exclusif sur chacune de nos plateformes pour vous. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre sur nos différentes plateformes. Notre équipe de réseaux sociaux fait un très gros travail. Alors, bref, on vous invite. Également, je vous invite à écouter la Notif des sportifs à tous les mardis midi, animée par Loric Salvaille, qui a peut-être un invité particulier qui s'en vient très prochainement. Donc, restez à l'affût de la Notif des sportifs de Loric Salvaille à tous les mardis midi. Et le Coin des rumeurs, qui est également animé par Loric Salvaille à tous les vendredis midi pour les nouvelles rumeurs LNH. Aujourd'hui, on va faire des petits topos au niveau de l'actualité de la LNH. Il s'est passé quand même beaucoup de choses dernièrement. Et pour ce faire, on va inviter notre collaborateur, Sam, le gérant d'Estrade. Sam, comment ça va?
Salut, ça va toi?
Ça va très bien, Sam. D'entrée de jeu, il faut que je te parle. On a eu un vote dans la LNH de la part des joueurs. Et quand on dit joueurs, je pense que pour évaluer le gars qui a le plus d'impact, c'est un bon indicateur.
Exactement.
Ma question, moi, va être la prochaine. Le meilleur défenseur selon les joueurs de la LNH, Cal Makar. Est-ce que c'est lui qui va gagner le Norris?
Probablement pas.
Alors, est-ce que vraiment le Norris est un trophée qui est remis au meilleur défenseur?
Non, mais c'est parce qu'il devrait avoir deux trophées. Je sais que ça se parle beaucoup dans le national. Les joueurs eux-mêmes en parlent. Ils aimeraient ça avoir un trophée pour le meilleur défenseur offensif et le meilleur défenseur. Mettons, le meilleur pointeur du défenseur, tu donnes le Norris, puis tu t'en fais un autre trophée, là. Mais Cal Makar aussi, il aurait probablement peut-être gagné le Norris s'il n'avait pas manqué autant de matchs. T'sais, il a manqué beaucoup de matchs, fait que son nombre de points, mais on sentait qu'Eric Carlson, c'est très impressionnant cette année. Là. Il va probablement faire 100 points. En tout cas, j'espère qu'il va le faire. Ça serait le fun de voir ça. C'est, je pense, en 96, la dernière fois, Brian Leach. Ça fait quand même longtemps. Je sais que c'est Brian Leach, mais je me rappelle pas de l'année parce que j'étais très jeune. Mais 100 points pour un défenseur, c'est incroyable. Surtout un défenseur d'une équipe assez mauvaise, je vais dire. Fait que, ouais. Mais non, mais je suis d'accord que Cal Makar, c'est le meilleur défenseur. Je suis d'accord avec les joueurs.
Ouais, ben, moi aussi, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait comme à quel point c'est dommage de voir qu'il n'a même pas gagné de Norris parce que les joueurs le reconnaissent que c'est le meilleur.
Ouais.
Il ne sera pas. Mais sinon, est-ce que tu as été surpris de voir des résultats aussi intenses? Le Vasilevski à 50-quelques pourcents d'appui concernant c'est le gardien que je veux avoir dans un match décisif?
Pas tant surpris pour l'instant. Je pense que c'est vraiment le meilleur gardien de but sur la planète. T'sais, le fait que Carper ne soit plus là, ça enlève beaucoup de... T'sais, avant, c'était comme une guerre entre ces deux-là pendant 3-4 ans. Mais là, Carper n'est plus là. Puis des gardiens de but, Chesterkin n'a vraiment pas de bonne saison. Mais ben, comparé à ce qu'on s'attend. Là.
Il s'est repris dernièrement.
Oui, dernièrement, oui. Les Rangers sont repris au complet, là, globalement, mais je suis pas surpris de voir ça, mais je crois que dans les prochaines années, un autre de ses compatriotes russes va le chauffer, il s'appelle Ilya Sorokin, qui, je sais pas si vous avez vu son arrêt cette semaine, là, mais du bout du bâton, ouais. Celui, je l'aime depuis qu'il était repêché, je veux dire, j'ai hâte qu'il arrive, finalement arrive, timide au début, mais là, on a vraiment vu que ce gardien-là était solide, fait que
Hey, puis ça, là, c'est ça me lance on the spot, là, mais tu sais, longtemps, les Islanders avaient un système de tandem au niveau des gardiens de but. Là, Sorokin s'implante vraiment comme un
exactement. Partage. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un gardien. Ben, il n'y a plus Rick DiPietro. Ça n'a pas vraiment très bien été avec les gardiens. Tu sais, il y avait eu Thomas Greiss vers la Mauve. Après ça, il y a eu Corey Schneider, qui n'a jamais vraiment été un bon gardien là, mais il avait été cherché. Sinon, c'était souvent Barry, ben c'était Barry Trotz qui amenait le. Je pense qu'il aimait beaucoup ça, avoir deux gardiens de but. Mais là, moi, je pense que ça te prend un gardien de but dans au moins 55 matchs. Peut-être pas trop le surutiliser, mais quand tu as une équipe comme les Islanders qui n'ont pas beaucoup de grosses attaques, ça prend un excellent gardien de but. Puis c'est ce qui va probablement les emmener en série. Ilya Sorokin, puis le fait qu'ils jouent bien collectivement.
Mais moi, en fait, je me dis c'est surtout quand tu n'as pas de gardien qui est vraiment identifié numéro un, aussi bien opter pour un tandem au lieu d'essayer d'avoir un numéro un qui est ish, mais vas-y avec. Parce que les Bruins, ça marche bien en ce moment.
Oui, ça marche bien. Mais Ulmark, tu sais, il est quand même. C'est pas un jeune gardien de but, tu sais, de 22, 24, là, mais je pense qu'il est dans fin vingtaine. Mais ça reste que. Un tandem, moi, j'ai comme Swayman puis Ulmark, je pense pas que ça peut durer des années parce que les deux, je pense qu'ils ont, ils ont le goût d'être numéro un. Puis je pense que les deux ont le potentiel de l'être aussi. Fait qu'un gardien de but, on avait beau dire ce qu'on veut, ils veulent garder les buts chaque soir, même si à un moment donné, ça prend un congé. Là. Mais tu sais, Vasilevski, lui, il veut être le même but tous les soirs. Fait que. Mais je pense que ça peut durer à long terme avec des gardiens qui le savent. C'est comme Montembeau, je pense que lui peut être dans un tandem. Tomáš Grájs peut être dans un tandem. Vilhuso peut être dans un tandem. Mais des gardiens comme Sorokin ne peuvent pas être dans un tandem. Ils veulent garder les buts.
Exact. Je pense que ton option tandem est là aussi longtemps que tu n'as pas un gars qui est vraiment clairement identifiable.
Exact. Exactement.
Pis sinon, ben là, on a peut-être un débat à clore. Puis c'est celui du joueur qui a le plus d'impact dans une équipe parce que là, McDavid, il a remporté et haut la main. Puis ça, c'est ses pairs qui l'évaluent comme ça. Mm-hmm. Fait que je pense que tu sais le débat McKinnon-McDavid.
Ben, ça dépend comment qu'on le voit. Moi, c'est la question, est-ce que McDavid, c'est sûr que c'est lui qui a le plus d'impact dans son équipe parce que tu l'enlèves, les Oilers. Oui, en Draisaitl, mais les Oilers, c'est une équipe de bas de classement juste avec Draisaitl. Quand t'as les deux, c'est un monstre à deux têtes. Les deux sont encore meilleurs ensemble. Mais si t'en enlèves un des deux, c'est sûr que ça diminue. Puis la profondeur des Oilers est pas là en attaque. La blessure de Vander Kane au poignet, il est plus que ce qu'il était depuis qu'il est revenu de ça. Fait que oui, c'est McDavid, c'est le joueur le plus important de son équipe. Mais moi, quand je dis que je prends McKinnon, c'est pour construire une équipe, pour gagner la coupe. Ouais. C'est là que je prends McKinnon. McDavid, c'est clairement le meilleur joueur de la ligue. C'est même pas serré comment il est bon. Mais pour construire une équipe pour gagner, McKinnon.
C'est ça. La question, par exemple, pour les joueurs, c'était vraiment le gars qui a le plus d'impact dans un match.
Exact.
Je parlais pas de
bon. Je suis d'accord avec ça. Okay. Malgré que McKinnon, c'est. C'est là, peut-être mon cœur qui parle.
J'aimerais ça que tu me parles de choses un peu étranges. Là.
Ouais, vas-y.
Il y a des affaires dans LNH que j'ai pas tant compris. Puis dernièrement, j'ai vu, entre autres, de ton côté, à Columbus, Patrick Laine, qui est un ailier naturel qui se ramasse au centre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, ben, je pense qu'il se passe plein de choses à Columbus. Pas très agréable depuis le début de l'année. Ce qui est arrivé, on n'a jamais eu la réponse, mais moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que Brad Larson a eu de la mortalité dans sa famille. Il a fallu qu'il quitte. Fait que c'est Pascal Vincent qui a pris le poste d'entraîneur-chef en attendant que Brad Larson revienne et funérailles. Puis, c'est lui qui a coaché. Fait que derrière moi, c'est lui qui a décidé de mettre Patrick Laine. Il dit, anyway, ils ont rien à, les Blue Jackets ont absolument rien à perdre. Fait que, ils ont dit, on va l'essayer une game. Puis, il a vraiment aimé ça, ça a l'air. je sais pas, ça a fini 7-2, je pense, ce match-là. Fait que, ben, c'est sûr, c'est contre Vegas. Mais
c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Parce que Laine n'aura pas une carrière au centre. Là.
Non, mais. Peut-être que c'est Laine qui l'a demandé aussi. Que j'aimerais ça jouer au centre, mettons, à soir. J'aimerais ça l'essayer. Tu sais, un challenge. Tu sais, il y a sérieusement qu'il perde la game ou qu'il gagne la game, que ça marche ou pas, il ne deviendra jamais un centre. Mais peut-être que, tu sais, le joueur, il demande ça à son coach. Son coach, il veut. Tu sais, why not? On va l'essayer. Puis, tu sais, on ne sait jamais des fois, tester des affaires puis ça marche. Mais je pense pas que Laine va être un centre. Là. Mais. Ça a l'air qu'il a apprécié beaucoup l'expérience. Fait que ça peut bien lui faire plaisir. Là. Il dérange pas.
Mais tu sais, je me dis, un gars comme Dustin Byfuglien, il avait été changé. Il était ailier, si je me rappelle bien, avec les Hawks. Puis après ça, il s'est ramassé défenseur.
Brad Burns aussi.
Brad Burns, il était ailier au début?
Oui, il était à l'attaque. Oh, avec le Wild, je crois, qu'il était au début.
Ouais. Ouais. Il était repêché par le Wild. Mm-hmm. Ah, je suis surpris, ça. Je me rappelle plus de ça. Mais tu sais, l'aîné, c'est parce que tu n'as même pas intérêt de changer de position. Il va bien où ce qu'il est. Fait que je vois pas l'intérêt de.
Ah, puis il n'y a pas le IQ hockey, mais il n'y a pas le. Un centre, ça l'est déjà en partant, c'est une pression pour être bon défensivement parce que t'es le gars le plus important dans les attaques. Puis tu sais, Laine, il n'aura jamais le sens d'être un gars défensif. T'sais, le gars, il pense à l'attaque, il pense à scorer des buts. T'sais, c'est comme si Cole Caulfield avait joué au centre. T'sais. C'est sûr que Cole Caulfield est plus petit, tandis que peut-être Patrick Laine à 6 pieds 4, 200 quelques livres, un centre, tu sais, mais. Je pense pas qu'on va revoir ça prochainement. Souvent. Peut-être cette année, on sait jamais. Mais je pense pas qu'après. Je pense que c'est juste pour. Les gars veulent avoir du fun. T'en perds à un moment donné. Je pense que ça a juste changé le mal de place. Puis ça a changé les idées, je pense. Je pense que c'est plus ça.
T'as un point intéressant, là. C'est vrai. La saison est perdue de toute manière. Fait que tant qu'à ça
aussi. Mais c'est le fait que c'est Pascal Vincent qui avait coaché ce game-là aussi. T'sais, Pascal Vincent connaît très bien Patrick Laine à cause de Winnipeg. Fait que peut-être qu'il avait il avait déjà parlé de ça. Puis vu que là. Le coach n'était pas là. Les Suédois en ont profité pour. Mais tu sais, je pense pas que ça dérangeait Brad Larson qu'il a changé.
Pascal Maistre, me rappeler, moi je me rappelle qu'il était avec le Moose, mais est-ce qu'il était assistant coach avec les Jets?
Il a déjà été assistant coach des Jets, mais je pense pas que Patrick Laine était avec les Jets dans ce temps-là. Et il s'est allé dans la Ligue américaine finalement, mais tu sais, on s'entend que même si dans la Ligue américaine, il n'a pas jamais coaché Laine, ils sont quand même dans la même organisation, fait que les joueurs se connaissent, puis les coachs, fait que c'est ça.
Puis ça, d'ailleurs, ça va être intéressant, ce point-là, avec un autre sujet. Mais avant qu'on passe à l'autre sujet, c'est un joueur que toi, tu connais mieux que moi, mais Elias Pettersson, j'ai vu que selon le site de hockeywriters.com, on le met sur... Parce qu'il faut rappeler que, tu sais, quand ils font les listes de trophées, il y en a un qui gagne, mais ils peuvent voter pour comme d'autres
joueurs. Oui, toutes les votes sont comptabilisés. S'il y a un vote, le joueur va apparaître.
Exact. Fait que, tu sais, même s'il n'était pas établi comme étant un potentiel gagnant du Selkie, donc le joueur d'avant le plus défensif, Elias Pettersson est quand même listé quatrième. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa game que moi j'ai manqué parce que je le vois pas comme un joueur défensif?
C'est pas un joueur défensif, mais c'est un gars qui joue quand même bien défensivement. Tu sais, okay. C'est pas un gars que son jeu, il veut pas nécessairement jouer défensif dans sa tête, mais on dirait que ça il fait, c'est un automatisme pour lui de le faire. Il fait quand même bien cette année, malgré la saison des Canucks qui est très difficile. Mais je pense qu'il est dans le plus 13, il me semble. Fait que, tu sais, pour un gars, moi, un gars qui finit dans le positif avec des équipes qui sont dans le fond de classement, ça m'impressionne toujours. Parce que si tu finis dans le positif avec une équipe qui perd à peu près 75% de ses matchs, c'est sûr que ça veut dire que tu fais bien de quoi de bien défensivement, c'est sûr. D'ailleurs, Gavrikov était dans le positif ou très proche là, avec les Blue Jackets qui perdent beaucoup. Fait que c'est sûr que quand tu perds beaucoup, tu finis dans le négatif. Fait qu'un joueur comme ça, moi, je pense que ça m'impressionne. Mais je pense surtout que cette année, sa saison est tellement bonne offensivement, puis il fait quand même bien défensivement que les gars ont voté pour lui. Mais
pour
on s'entend que pour le Selkie, c'est Barkov, c'est Bergeron. Ouais. C'est des gars de même qui c'est presque sûr qu'ils vont avoir plein de votes de première place. Fait que souvent, peut-être que les journalistes essaient de faire essaient de mettre un home run dans la troisième position pour un show. Là. Mais on sait qu'Elias Pettersson ne gagnera pas le Selkie tant qu'Alexander Barkov est là ou Patrice Bergeron. Mais Bergeron, on sait que lui, c'est peut-être sa dernière année. Fait que,
peut-être un petit
mais Barkov est incroyable.
Ah, et ça peut nous amener à quelque chose d'ailleurs, parce que Barkov a été voté comme étant le joueur le plus underrated de la LNH selon ses pairs. Puis ça, ben, je pense que c'est pleinement mérité parce qu'il joue vraiment pas dans un marché qui est recherché.
Exact.
Puis c'est un gars qui est complet depuis des années. Puis on dirait qu'il a tout le temps passé sous le radar. Je sais pas tant pourquoi. Puis en ce moment, Matthew Tkachuk, puis lui, ça va très bien.
Ben, c'est pas un gars que tu... Ben, en fait, des joueurs underrated, il y en a tellement. C'est fou. Mais c'est surtout les joueurs d'un petit marché. C'est sûr qu'eux autres, c'est des joueurs qui sont souvent plus underrated. Mais c'est vrai que personne pense à Alexander Barkov quand tu parles d'un joueur... c'est qui le meilleur joueur de la Ligue, selon toi? Tu sais, on parle de McDavid, Draisaitl, de McKinnon, mais Barkov viendra pas dans tes premiers noms. Mais moi, mon choix, là, je sais que c'est les joueurs, mais c'est un autre joueur des Panthers qui me surprend, c'est Carter Verhaeghe.
Je connais 30, le nom.
34 buts cette année avec les Panthers. Je l'ai dans mon pôle, je le connais bien. Va me faire gagner d'ailleurs, mais sérieusement, c'est probablement la raison pourquoi il est 34 buts, c'est Alexander Barkov. Tu sais, ils jouent ensemble, fait que le gars, il se soucie sûrement pas de la défensive trop tôt. Non. Fait que Barkov fait les passes, lui il récolte les buts, mais sérieusement, Barkov, si les gens n'écoutent pas beaucoup de games des Panthers, vous allez le reconnaître assez facilement. Ouais. Vous allez même pas besoin de regarder ou entendre, vous allez savoir c'est qui le joueur juste avec ce qu'il fait sur la glace.
Puis, tu sais, je pense que, puis là, je dirais pas où est fort, mais la saison plus difficile de Jonathan Huberdeau versus la très bonne saison de Matthew Tkachuk, je pense que c'est assez révélateur.
Ouais, ben c'est sûr que Huberdeau a perdu son centre, puis là, il joue avec Kadri. C'est pas la même chose.
All right. Ben écoute, là, il faut qu'on parle de quelque chose qui s'est passé pendant une game de tes chers Blue Jackets. Malgré la défaite, Alexander Ovechkin a quand même réussi à surpasser un des records de Wayne Gretzky. Et c'est celui d'avoir le plus de saisons avec 40 buts et plus, avec un total de 13 saisons. Toi qui as regardé le match, s'est-tu passé quelque chose de particulier ou pas?
Ben, c'est sûr qu'une game qui se finit 7-6 en prolongation, c'est assez impressionnant.
C'était-tu en prolongation? C'était pas en prolongation.
Oui, les Blue Jackets ont gagné 7-6 en prolongation hier.
Ah non, mais son but à lui.
Oh non, okay. Ils ont perdu. Non, c'était le premier but du match. C'était 3-0 pour les Capitals à un moment donné. Puis ça a été un bon match de hockey pour pas pour les entraîneurs, là, mais pour les fans. Ça a été un excellent. Bon. Mais non, mais c'est un tir. Le but n'a même pas été crédité à lui au départ. C'est un but. Oh. C'est pas un but à la Ovechkin, one-timer des circles. Mais c'est un but qui a été changé parce que c'était pas lui qui avait marqué. Puis là, après ça, ils ont dit le but a été crédité à Ovechkin, c'est son 40e. Fait que c'est là que là, les records.
Tellement plate.
Ben c'est plate parce que mais il devait le savoir qu'il avait touché lui mais la Ligue nationale souvent c'est comme mettons ton premier but en Ligue nationale il est comme révisé puis après ça c'est pas pareil
ouais. Non,
tu peux pas le célébrer façon, comme ouais c'est ça tu le vis pas de la même façon mais c'est incroyable c'est Ovechkin à chaque fois on se dit hein, il fait 40 buts à 38 ans je pense qu'il est rendu 39 en tout cas 40 buts puis il marque tout le temps. Ben, pas tout le temps, là, mais mettons sur 40, il doit en avoir 25 de la même place. Là. Fait que c'est incroyable. Puis tu sais, je sais que le record n'est pas battu, mais selon moi, j'ai pas vu jouer Wayne Gretzky, mais marquer 800 buts avec du hockey comme aujourd'hui, que les gardiens de but sont meilleurs et tout. Je sais que les bâtons sont meilleurs aussi, mais ça reste que les games avant, ils se finissaient 7-6, 7-4. Ouais. Il y a beaucoup de buts. Là, les games finissent 3-2, 4-3. Il était quand même 7-6, mais il y en a juste marqué un. Gretzky finissait avec 4-5 points par game. Ouais. Tandis que moi, je trouve ça, même si je pense qu'il va le battre, là, mais même s'il ne bat pas, selon moi, Ovechkin est le meilleur buteur de l'histoire à cause des deux époques. Je sais qu'on peut pas le dire parce que c'est des chiffres, là, mais selon moi, c'est beaucoup plus impressionnant ce que Ovechkin a fait que Wayne Gretzky. J'enlève rien à Wayne qui a fait des saisons de 92 buts quand même. Là. Mais.
Zéro impressionnant. Non, c'est rien.
Mais quand même, je sais que tu comprends mon point.
Oui, je comprends. Merci pour avoir vu jouer Wayne Gretzky. Il n'y a pas la shot d'Ovechkin. Wayne Gretzky est un joueur qui bougeait plus, un joueur qui avait des mains différentes. Puis
dans son bureau.
Il n'y avait pas la stature. Oui, en arrière du ouais, il n'y avait pas la stature non plus d'Ovechkin. Puis un point que moi j'aimerais amener, c'est que tu sais, je l'ai mentionné souvent, mais Connor McDavid joué dans les années 90 ne serait pas aussi prolifique parce qu'il ne pourrait pas rentrer dans le cœur du territoire comme il le faisait. Il y avait de l'accrochage, il y avait des échecs, tout ça. Ovechkin, avec la force qu'il a, il aurait été capable de le faire. Fait que, tu sais, d'après moi, Ovechkin, qui est un gars que j'ai toujours qualifié comme étant paresseux parce qu'il est tout le temps en même place, mais sacrément, il compte pareil tout le temps de là.
Mais c'est ça, puis tout le monde le sait qu'il a powerplay. Mais tu sais, c'est un peu une affaire pour Cole Caulfield. Je sais que c'est pas le même genre, mais Cole Caulfield, ses buts, c'est pas mal tout le temps la même place. Le même shot. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est du talent pur. C'est du talent pur de ces joueurs-là. Mais j'ai regardé justement un match, une reprise. Ben, pendant la COVID, il y a eu beaucoup de reprises. Puis c'est à l'enfer comment il y avait de l'accrochage. Puis c'est même pas gênant. Là. Il tire vraiment le gars. Là. Puis il n'y en avait pas de punition pour d'accrochage. Non. Fait que ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, McDavid, il se ferait accrocher en zone neutre. Jamais qu'il aurait la vitesse pour. Anyway, il n'y avait pas les mêmes patins. Sûrement que tu donnes les patins à McDavid dans le temps, il y aurait peut-être des gars qui auraient patiné un peu plus vite. Là.
Ah, ça peut-être, mais ce que tu as raison, là, c'est que c'était une façon d'accélérer, d'accrocher. Donc, les gars pognaient le joueur en avant d'eux autres avec le bâton, puis ils se poussaient vers
l'avant. Oui, c'est sûr.
Puis c'était accepté dans le temps. Là.
Mais il ralentissait le gars qui avait rondelle, puis lui, ouais. Il accélérait, fait qu'il n'y avait plus d'avance.
Là, mais c'était du hockey qui était du hockey de force physique, alors
que oui.
C'est du hockey de vitesse. Là. C'est très différent. Fait que, un gars comme Mario Lemieux, il était lent, tabarouette Mario Lemieux, mais il était fort physique.
Ouais, il y avait trois gars suivis des fois. Puis
écoute, il avait les mains.
Il ne sentait pas.
Physiquement. Fait que, c'est un joueur que le hockey physique, c'était correct pour lui, mais la vitesse, il aurait vraiment pas été là. All right. Ben là, écoute, après ça, on va passer avec Daniel Brière, un petit Québécois qui a été nommé par intérim DG chez les Flyers de Philadelphie après tout le marasme qui s'est passé dernièrement chez les Flyers. Fletcher est renvoyé. C'est Brière qui arrive, mais tu sais, c'est pas un étranger dans l'organisation. Là. Le gars, il était DG de la ECHL, mais il reste qu'il était comme consultant au DG. Fait on change pas vraiment de mentalité. On reste dans le même gauge. Puis, qu'est-ce que tu penses de la nomination de Danny Brière?
Ben, je suis très content. Puis, tu sais, Daniel, il est retourné avec les Flyers parce qu'il est c'est dans son cœur, les Flyers à vie. Là. Tu vois que c'est un Flyers à vie. Fait qu'il est resté là. Je suis très content. Mais là, par contre, avec les incidents qui sont arrivés dernièrement, j'ai entendu dire que ça se peut que ça lui coûte le poste de directeur général. Ben, moi, c'est Georges Larac qui a dit ça sur BPM Sport, que dans le fond, les consultants, dans le fond, au propriétaire, c'est Paul Grant, Bobby Clark, puis c'est un autre gars que je connais pas. Mais ça a l'air qu'eux autres, ils étaient en amour avec Fletcher, en tout cas. Chuck Fletcher, c'est ça?
Il me semble que c'est Chuck Fletcher.
Chuck. Je l'appelais Clutch. Chuck Fletcher. En tout cas, il était en amour avec, puis il était pas vraiment d'accord qu'il a décidé de le renvoyer. Fait que derrière moi, ils sont un peu amers. Fait que peut-être, ça se peut que le propriétaire décide, parce que c'est lui le boss pareil, que c'est Brière pareil, mais ça a l'air que les consultants sont pas choisis de le garder. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas de sa faute si son fils est cave là. Fait que tu sais, là on parle de l'incident de son fils là, qui est arrivé avec la chaise roulante et tout, mais c'est parce que là il est poursuivi au criminel pour ça, fait que c'est pour ça que là les Flyers ils ont pas besoin de ça présentement là. C'est surtout ça qui les Flyers ça va déjà pas bien, les fans là-bas sont déjà fous quand ils gagnent, imagine-tu quand ils perdent. Fait que si les Flyers ils ont vraiment pas besoin de ça, mais moi je pense pas que ça devrait coûter le poste à Daniel Brière, parce que premièrement, c'est même pas lui qui a fait ça. Il n'y a pas d'affaires à payer pour les gestes à son fils. Puis deuxièmement, je pense que c'est une taille de hockey. Fait que je pense qu'il pourrait remettre les Flyers sur la map. Ils en ont grandement besoin, parce que les Flyers en série, c'est tellement fun à voir en passant. L'ambiance là-bas et tout, mais...
Ouais, c'est clair que c'est une ville quand même qui n'a pas de bruit. Là, tu sais-tu que moi, ce que j'aime vraiment pas là-dedans, c'est le fait que Daniel Brière, c'est un gars qui a le cœur pour les Flyers. C'est un gars qui est retourné aux études pour pouvoir aller dans le management dans le hockey. Mm-hmm. C'est un gars qui pense à... Parce qu'il étudie en économie, je sais pas quoi en économie. Fait que, c'est un gars qui pense à ce côté-là, marketing.
Ouais.
Puis tu passerais à côté de ça à cause que son gars a lancé une chaise roulante dans les escaliers.
Ben, mais je pense pareil. Je suis exactement pareil comme toi. Puis le pire, c'est que, admettons que les Flyers ne le garderaient pas, je suis presque sûr à 95% qu'une autre équipe nationale va lui donner une chance. C'est juste que lui, il est retourné à Philadelphie parce que c'est là qu'il a joué son hockey, c'est là qu'il a eu des bons moments. Fait que lui, c'était un no-brainer d'aller là, mais si, admettons, les Flyers font l'erreur de le laisser partir, je suis pas mal sûr qu'une autre équipe nationale va prendre la chance de le prendre comme DG. Je suis même pas inquiet.
J'espère aussi. En tout cas, il passerait à côté de quoi pour une petite connerie, selon moi, mais ça, c'est un point de vue. All right. Rapidement, on va parler de Lane Hutson, l'espoir du Canadien de Montréal, qui a marqué rien de moins que 2 buts pour donner la victoire à son organisation. Je pense qu'il s'appelle les Terriers de Boston, si je ne fais pas erreur.
Aucune idée du nom, mais oui,
les
c'est
Terriers Boston University. De l'University of Boston.
BU.
Le Frozen Four. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil ou pas du tout? Tu as vu
les... C'est sûr que là, moi, je suis comme occupé avec le March Madness côté basketball ces temps-ci, mais c'est passé tout en même temps, à un moment donné.
Ça n'en fait trop.
Je suis débordé, moi, là. Mais j'ai jeté un coup d'œil, j'ai regardé les faits saillants, puis il y a un assist shot, là. Lane Hutson, le but, je pense, en prolongation qui a marqué. Mais ceux qui veulent voir Lane Hutson en action, demain, c'est la demi-finale. Je sais pas si c'est demain ou vendredi, mais c'est soit un des deux.
Ouais, aujourd'hui, c'est diffusé jeudi. Fait.
Jeudi, OK. Aujourd'hui, jeudi ou demain, vendredi.
Exact.
à 2h sur les ondes de RDS, les deux demi-finales vont être présentées. Fait que c'est Western Michigan.
Mais
là,
à 2h, c'est trop tard, là. Ça va être fini. Ça, c'est diffusé à 18h.
Ouais, mais si c'est vendredi. OK, ouais, c'est vrai. Je suis dans le temps. Mais en tout cas. Si c'est vendredi, parce que c'est une des deux demi-finales qui est un jeudi, puis une. Okay. Peut-être qu'elle est passée à la demi-finale présentement. Mais peut-être pas non plus. Fait qu'au pire, regardez la demi-finale de vendredi pareil. C'est dans le fond, c'est pas compliqué. Vous allez avoir un espoir du Canadien pareil. C'est soit Lane Hutson ou Jacob Dobbs, le gardien de but d'Ohio State. Fait que regardez ça, c'est du bon hockey. C'est les quatre équipes qui restent pour le championnat de la NCAA. Fait que c'est ça. Mais Lane Hutson. C'est un méchant bon espoir, un méchant bon prospect pour les Canadiens. La seule affaire qui inquiète les gens, c'est son poids, sa grandeur pour un défenseur. Parce que, tu sais, un défenseur, tu sais, Quinn Hughes, on s'entend que Quinn Hughes, pour sa grandeur défenseur, ça le dérange pas bien. Fait que je pense qu'on sait qu'il est capable, mais je pense que c'est une difficulté que d'autres défenseurs n'ont pas, comme mettons Logan Mailloux n'aura pas, parce que lui, il est déjà c'est ça. Mais sérieusement, il est impressionnant. Pour un choix de deuxième ronde, là, en plus.
En termes de mots de la fin là, sur Nate Hudson, Mathias Brunet, qui était sur les ondes de BPM, je vais paraphraser, a dit « on peut s'énerver pour lui ». Fait que bref, lui, il est très confiant que
Lane Hudson... On parle du gars qui s'énervait pour Mathias Norvindor, par exemple. Fait que,
on va
me garder une petite jambe.
Ah, OK. C'est pas que je l'ignorais. Effectivement, Norlander, il a pas pété des... En tout cas, il a pas pété...
Mais non, mais il faut quand même être content que... Quand un des espoirs de ton club est bon, je veux dire, tu sais que les Coyotes, Logan Cooley, il est exceptionnel. Puis moi, j'ai Jordan Dumais quand même dans Halifax, c'est en train de tout casser.
Oh,
puis tu sais, je suis excité, mais je me garde quand même une petite gêne à cause de la stature aussi. Mais c'est sûr que c'est le fun de voir un prospect de ton équipe qui brise des records, qui est comparé à des bons joueurs. Mais ça reste qu'on va le savoir dans 2-3 ans. Fait que, on peut dire ce qu'on veut, mais regarde.
Avec le depth chart que le Canadien a au niveau des défenseurs, je pense qu'on va réussir au moins d'en sortir un qui va être quelque chose de solide.
Ben, c'est sûr. Moi, je vois Logan Mailloux ou Lane Hudson driver un powerplay. Puis Goulet. Moi, je pense que le meilleur défenseur de la débrigade, ça va être Goulet. Mm-hmm. Overall, parce que ce gars-là, il est vraiment bon partout. Mais côté offensif, il est moins développé que les Mailloux et Hudson, mettons.
Mailloux, je ne l'ai pas tant vu. Lane Hudson, j'ai vu des séquences, puis il aime porter la rondelle. Il aime se patiner.
Oh, il est plus mobile. Mais Mailloux, pour sa grosseur, il est mobile, puis surtout un excellent lancer. Mais bon, je pense que ça va être une compétition, ces deux-là, pour le QB sur le powerplay, mettons. Si je peux dire ça. Ça fait longtemps que les Canadiens n'en ont pas eu un. Là. Ça a été Subban le dernier. Après ça, il y a eu Markov Subban en même temps, mais après ça, tranquille.
Ah, c'est
on va dire ça tranquille. On est sur le neutre, on va dire.
C'est même, moi, je me rappelle à une certaine époque, c'était Sheldon Surrey qui était notre défenseur le plus offensif. Mais il y avait un bon tir du poignet de la.
Son bâton jaune, il craignait ça. Bang!
Mais tu sais, il reste que c'était. En tout cas, avoir vraiment un général pour l'avantage numérique, ça peut être intéressant.
Ah, c'est sûr, ça
va nous permettre de faire un lien avec notre prochain invité qui, lui, va venir nous faire un petit tour sur les sénateurs d'Ottawa. Est-ce que ça n'a pas été facile dernièrement, mon cher Phil Sands? Comment ça va?
Ben, à cause de la dernière séquence, comme tu viens de dire, moins bien. Moins bien. Ça va bien, mais moins bien.
Mais là, pour faire mon lien, là, j'ai trouvé ça super intéressant, ce que j'ai lu dernièrement. Thomas Chabot était blessé.
Oui.
Puis Jake Sanderson a été beaucoup utilisé. Là. Je pense que c'était même le défenseur le plus utilisé. Daniel Alfredson a travaillé avec Jake Sanderson pour y montrer des images de Eric Karlsson et de Chris Phillip. On croit beaucoup là, aux côtés de Jake Sanderson powerplay.
Je savais même pas ça. De Daniel Alfredson, j'avais jamais entendu ça.
C'est dans The Athletic que j'ai lu ça. Fait que...
OK. Ben, on croit vraiment beaucoup en Jake Sanderson. En ce moment, je pense que Chabot joue avec une blessure. DJ Smith a dit que c'était un warrior. Il veut jouer, il veut faire partie de cette équipe-là, puis il veut terminer la saison malgré des petites blessures par-ci par-là. Mais c'est parfait. S'il est blessé, on baisse son temps de jeu. On sait que Jake Sanderson, malgré que c'est sa saison recrue, est capable d'en prendre. Puis dans le match contre les Pingouins, il a joué. C'était le défenseur qui avait joué le. Non, je pense que c'était contre Boston. Il a été le défenseur, le joueur le plus utilisé pour toute l'équipe. Il a super bien performé. T'sais, c'est rare qu'on voit Jake Sanderson faire une erreur. Puis c'est tellement surprenant. Il n'a jamais joué une saison aussi longue de toute sa carrière. On est rendu dans la dernière petite séquence de fin de saison. Puis il joue encore aussi bien qu'à son premier match. C'est vraiment impressionnant. Puis on croit que c'est notre défenseur du futur, c'est clair.
Puis là, si je fais pas erreur, j'ai regardé vite, puis il a l'air d'être pas mal tout le temps utilisé en avantage numérique, que ce soit première ou deuxième vague, il est tout le temps en powerplay.
Ben, toute la saison, pas mal, il a été sur la deuxième vague. Maintenant, il est rendu sur la première. Notre avantage numérique était un des meilleurs de la ligue pendant longtemps. Oui. Puis on a eu une longue séquence que ça allait mal. On était incapable de scorer, puis on était sur le bord de battre un record de l'histoire de la Ligue nationale pour le plus de buts alloués en désavantage numérique dans des matchs consécutifs. C'était pas glorieux, mais depuis qu'on a mis Jake Sanderson, ça a recommencé à bien aller. Thomas Chabot sur la deuxième paire, je trouve ça parfait. Pas que Chabot était nécessairement un mauvais défenseur, mais quand ça va mal, il faut que tu essayes différentes choses, puis à date, ça a quand même fonctionné.
Puis, est-ce que tu peux... Ah, vas-y, Sam.
Ben, si je ne me trompe pas, en plus, Jake Sanderson, il avait comme été prêt avant Jimmy Drysdale, puis les gens étaient capotés. Finalement, c'est sûr que Drysdale n'a pas été chanceux. Il s'est fait opérer à l'épaule la première semaine de l'année, mais Jake Sanderson, pour un gars qui a doublé son nombre de matchs, hein, parce que je pense qu'il joue à peu près 35 matchs en NCAA, puis là, il est rendu proche de 80. Fait que c'est impressionnant. Puis moi, j'ai regardé aussi la game contre les Pingouins parce que je voulais qu'ils perdent. Puis
ouais.
C'est ce qui est arrivé.
Ouais. Ça, on va donner tout le crédit aux gardiens. Les Sens étaient horribles, ce match-là.
Ouais, puis dis le nom du gardien pour le fun, pour que le monde.
Dylan Ferguson, rappelez-vous de ce nom. Très important. Il va faire un sport.
Écoute, pour faire un petit topo, je l'avais noté, ce gars-là, parce que j'ai aucune espèce d'idée c'est qui. Il a joué un total de genre 2 matchs dans la LNH, mais contre les Penguins de Pittsburgh, il sort une efficacité de 980. What the fuck?
J'ai aucune idée. Je sais pas quoi dire. Je sais pas d'où que ça sort. Il voulait environ un mois. Il était avec les Marlies dans la Ligue américaine.
Ouais,
il a été changé pour des considérations futures. Donc, on assume que c'est elle un peu qu'ils nous ont donné pour Matt Murray. On va assumer que c'est ça. Et après ça, il est rendu à Belleville. Puis là, nos deux gardiens se blessent. Puis Matt Sogard, il se fait monter. Mendelissé, il se fait monter. Fait que là, on va chercher Ferguson pour du renfort à Belleville. Matt Sogard, ça va pas bien. On décide d'envoyer Mendelissé à Belleville, de remonter Ferguson. Et on joue un back-to-back. On a décidé de le mettre contre les Pingouins. Il a sorti une performance incroyable. Il est arrivé là, confiant. Je sais pas si c'était le rush d'adrénaline, son premier match dans LNH. Il a pas eu... Puis, Un gardien dans son premier match, ce qui est bon, c'est quand ils n'ont pas le temps vraiment de penser. J'avais dit la même chose pour Mendelissé. Il y avait juste des tirs puis de l'action tout le long. Il a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait puis de vraiment réfléchir. Il était dans le feu de l'action, il faisait ses arrêts puis c'était des gros arrêts sur Crosby puis Malkin. C'était vraiment impressionnant puis on ne s'attendait pas à ça pantoute. Il est allé chercher la victoire à lui seul. Les Sens se sont vraiment pas présentés.
Mais Mendelissé, en plus, c'est ça qui est arrivé. Il a genre fait 45 arrêts, lui tout contre les Islanders, ce premier match. En dessous de barrage, ça avait fini en plus. Il avait comme arrêté, je pense qu'il avait scoré un but, mais il avait eu 4-5 shots. C'était incroyable.
Oh, ouais.
Mais en plus, Ferguson, ce qui est drôle, c'est qu'il y a encore ses pattes bleues. Il y avait encore ses pattes bleues des Maple Leafs.
Avec les pas le temps de changer
les qu'il y a un contraste, une forme rouge et blanc, des pattes bleues. Là, j'étais là, voyons, c'est qui? Je savais c'était qui parce que je pense qu'il a goalé pour les Golden Knights, c'est une coupe de match. Là. Mais
c'est ça, il a joué un match qu'il est entré pendant le match.
OK, moi, c'est ça.
Il n'avait pas starté. Commence, c'est ça.
Mais j'étais genre, c'est quoi ça? Là, j'ai vu qu'il jouait le lendemain, j'ai dit, OK, Sogard, il doit être sur le banc. Mais. J'en revenais pas, là. Contre les Pingouins. Puis en plus, le but qui s'est fait scorer, c'est quand même un but qui aurait pu arrêter. Fait qu'il aurait pu avoir un blanchissage. Ça aurait été incroyable.
Ah, mais bon. J'étais frustré, j'étais dans mon sol, puis je priais pour le blanchissage. Mais le pire dans tout ça, c'est que le lendemain matin, on apprend qu'il est malade. Je sais pas si c'est la malédiction des blessures des gardiens des Sens, mais il est malade. Moi, je pense que c'est juste parce que, après avoir joué un match comme ça, il ne fait plus en prendre.
Même il n'a pas eu un grip avec les joueurs qui passaient à côté.
C'est ça, exactement. J'espère qu'il n'est pas allergique à la puck parce que ça doit être ça qui l'a causé. Après ça, il remonte. Mendelissé remonte. En tout cas, c'est compliqué la situation des gardiens à Ottawa, mais si une sorte de performance comme ça, on va pas chialer.
Ben pour te faire un petit topo rapide, quand j'avais fait mes recherches, il a joué 5 matchs dans la Ligue américaine avec les Marlies, 888 d'efficacité, avec les Sénateurs de Belleville, 6 matchs, 935. Moi, je pense qu'il y a quelque chose chez les Sénateurs qui l'allume plus qu'à Toronto.
J'imagine que
c'est un nouveau départ. Quand tu arrives à une nouvelle place, tu veux montrer que tu veux faire la job. Fait que, il va probablement se guetter un contrat, je ne sais pas, pour l'année prochaine dans la Ligue américaine. Puis, c'est sûr que ce gars-là va rester. Sa game-là va rester marquée dans l'histoire des Sénateurs pareil, parce que je pense que c'est un record du nombre d'arrêts pour un premier départ dans l'histoire des Sénateurs, une affaire de même.
Oui, dans l'histoire des Sénateurs, puis dans la LNH au complet, 2-3.
Ouais, c'est sûr que commencer à 47 saves, c'est rare quand même.
C'est ça.
Souvent, tu fais commencer ton goal-là contre une équipe qui est. C'est pas les Pingouins, mettons.
Ouais, mais non, mais c'était les Pingouins ou c'était Boston?
Ah, c'est ça.
Le choix est rough, là.
Choisis pour en pire, on laisse aller.
Mais tu sais, tu dis, le coach, avant le match, il va leur dire, hey, c'est un nouveau gardien, c'est son premier match, il vient d'arriver, essayer de jouer un bon jeu défensif devant lui. Non. Non, aucunement. Ils n'ont rien fait. Mais je suis vraiment content, par contre, que même après avoir laissé un petit but faible, ils ont eu un avantage numérique à 2-3 minutes, ils sont allés la mettre dedans, puis ils ont eu la victoire pour lui. Là, ça, c'était, j'ai trouvé ça parfait comme histoire.
Parfait.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la dernière? Ça n'a pas été très facile dans les derniers temps. On a 5 défaites entre le 11 mars et le 18 mars. C'était tough, là.
Oui, c'était très tough. On venait d'avoir Chikrin, tout allait bien. Puis là, on joue Columbus à maison, le dernier match à maison. On gagne, ça crie les « We want playoffs », on veut les séries, ça crie ça partout dans l'aréna. Tu sais, les fans, on était très optimistes, puis c'était la première fois en 5 ans qu'on l'était autant. On est parti dans l'Ouest, 5-0, une défaite de 5-0 contre Chicago. Terrible. Mais tu te dis, ah, peut-être qu'ils vont revenir, effectivement, contre le Kraken. Ils battent le Kraken, puis après ça, c'était juste une pente descendante contre le Vancouver, Calgary. Laisser 5 buts à chaque match. La défensive n'était pas bonne. Mads Søgaard n'était pas tant non plus. Je ne veux pas blâmer lui, évidemment, mais il y avait quand même une part de responsabilité à prendre. Puis tout ce voyage dans l'Ouest-là, vraiment, pratiquement complètement tué nos chances d'avoir une place en série.
Mais le pire, c'est que ce soir-là, on s'envoyait des messages sur Messenger, moi de Phil, on crie les Blackhawks, voyons donc. Puis là, tu sais, à 2-0, il dit, ah, c'est pas fini, mais là, à 4-0, 5-0. Mais ce match-là a vraiment laissé des cicatrices mentales dans les joueurs. Là. Ça a vraiment fait mal parce que justement, il était sur un nuage, tout le monde était hype. Puis là les journalistes, tu sais, ils ne veulent pas après le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons, qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais.
Ça reste, c'est des séquelles qui sont restées. Mais le pire, c'est que la game contre les Pingouins, je me suis dit, hey, tu sais, puis hier, ça a 2-1 contre Boston, là, ça a été une méchante grosse game de hockey, puis ils ont bien joué, les Sénateurs. Là. Ils méritaient, ouais. Je pense qu'ils méritaient au moins un point dans cette game-là. Fait que je sais pas c'est quoi leur calendrier, là, mais si les Pingouins continuent à perdre, je pense qu'il y a une lueur d'espoir. Là, je dis une lueur, là, c'est vraiment mince là, comme lueur. Mais je pense que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Fait que moi, je crois encore aux Sénateurs. S'ils peuvent coller genre 8 victoires de fil, en tant que c'est minime. Mais on sait jamais.
Ouais, mais c'est ça. D'habitude, les Sens, toute la saison, ça a été la même chose. C'est soit ils ont 7 victoires dans leurs 10 derniers matchs ou ils ont 7 défaites dans leurs 10 derniers matchs. Il y a tout le temps des hauts et très hauts puis des très bas, comme dans ce voyage-là, puis ce qu'il y avait juste avant. Puis en ce moment, Ça va encore bien. Ça sort de nulle part, mais on s'en va à Pittsburgh, on gagne, on joue contre la meilleure équipe de la Ligue. On a mieux joué que Boston. J'ai tout regardé le match. Je suis convaincu qu'on a mieux joué que Boston. Mais c'est quand même Linus Omar qui
a pas
mal volé le match. Là, il était super bon. Puis ça recommence à aller bien, mais c'est ça. En ce moment, il faut prier que les Penguins perdent, les Panthers perdent, puis les Sens gagnent. Il faudrait que les trois s'alignent pour qu'on se trouve une place en série, ce qui serait surprenant, mais magnifique.
Mais une chose que j'ai remarqué aussi, c'est, je pense que les Sénateurs, ils ont des joueurs beaucoup maganés. Là. C'est Claude Giroux, je pense pas qu'il est à 100% non plus. Il arrive souvent au banc quand il finit ses chiffres. Puis même Mads Søgaard, je suis pas sûr qu'il est à 100%.
Non, il est
pas. Il a de l'air d'être un genou laine. Je pense que c'est son côté gauche. Ça prend du temps à se relever. Jake Sanderson aussi, c'est sûr qu'il est pas habitué, fait que c'est sûr qu'il est blessé. Ouais. Comme toutes les équipes, vous allez me dire. Mais ça reste que Claude Giroux, je ne suis pas sûr qu'il pourrait jouer si l'équipe ne se battait pas pour une place en série. Parce qu'il est vraiment là à maganer, Claude.
Ouais,
j'ai regardé le dernier match, puis ouf.
Mais en même temps, il continue tellement.
C'est
tellement important. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, surtout, ça peut être rough une longue saison. Je ne pense pas qu'il a manqué un match de la saison en plus. Fait que c'est ça. Les blessures, c'est pas facile. On a vu Mads Søgaard hier après la première période, il a parlé un petit peu au trainer, puis on a eu une petite conversation. Finalement, il est revenu, il a continué de jouer un bon match. Mais si on perd Mads Søgaard aussi, là, parle-moi cet été, puis dis-moi que nos deux gardiens de but, c'est Kevin Mendelissé et Dylan Ferguson. Je ne vais rien comprendre. Je ne vais absolument rien comprendre. Je ne connaissais pas Dylan Ferguson avant, il y a littéralement une semaine.
Ben, il va falloir rappeler Émile Beausoleil, pas le joueur.
Ah, bon. OK.
La saison prochaine, avec un Josh Norris qui revient, il ne faut pas l'oublier, Josh Norris. Quand même, une saison de 40 buts juste avant. Il ne faut pas oublier Josh Norris. Avec un Josh Norris qui revient, une saison complète de Jacob Chychrun, je pense que c'est l'année prochaine. Je sonne un peu comme un fan de Toronto, mais l'année prochaine, c'est l'année prochaine.
Ouais, mais là, c'est pas la même chose, Phil.
Okay. Non, je sais.
Mais
juste la phrase, l'année prochaine, c'est la nôtre, là.
Ouais, ça, c'est vrai que ça fait Toronto. Mais avec Sanderson qui gagne l'expérience, peut-être que Bernard Docker va commencer à Ottawa aussi. Je sais pas si Nick Holden, va-tu rester?
J'ai aucune idée de Nick Holden. Nick Holden, il a l'air vraiment d'être un bon septième défenseur, mais tu veux pas qu'il soit dans ton line-up.
Non, exactement.
Mais en même temps, on voit des vidéos, tu sais, après les victoires, chaque équipe a quelque chose qui se donne. Puis il est tout le temps là, même quand il joue pas, il amène de la bonne énergie. C'est un bon leader, puis tout ça. Fait que je pense que c'est quand même un bon vétéran à avoir dans l'entourage de l'équipe. Je suis pas sûr qu'il va revenir, mais c'est pour la suite Thompson puis JBD, c'est un peu inquiétant. En ce moment, ils ont vraiment pas l'air de progresser aussi vite qu'on pensait qu'ils allaient progresser quand on les a repêchés en première ronde, les deux. Puis l'année prochaine, je suis pas mal sûr qu'ils vont avoir besoin de passer au ballottage s'ils veulent monter dans LNH, redescendre dans la Ligue américaine. Ça va compliquer un peu les choses. Moi, je pensais qu'un des deux, justement, à cause de cette situation-là, partirait dans l'échange de Chikrin. Mais on garde les deux, puis j'imagine qu'on espère qu'ils commencent à progresser plus rapidement.
Puis est-ce que je peux te demander des nouvelles de comment il va, Jacob Chikrin?
Ça va bien. Il a commencé vraiment fort, j'ai l'impression. Puis depuis ce temps-là, il continue de s'habituer au système. Il a moins eu de gros flashs offensifs. Mais défensivement, je le vois travailler avec son bâton. Puis c'est incroyable, ce gars-là, comment il est fort, comment il brise des deux contre un juste en levant le bâton. Juste sa force physique puis son intelligence défensivement, ça amène beaucoup à cette équipe-là. Puis je pense que quand il est arrivé, on dirait avec beaucoup de confiance, pareil. Puis il était tout le temps rendu dans zone offensive. Puis il aimait ça aller pincher en zone offensive. Puis des fois, c'était pas bon. C'est quoi qu'il y a, Sam?
Ben, j'ai l'impression qu'il va se mettre à pleurer parce que c'est ennui. Je l'entends parce que tu sens, je suis genre, voyons.
Écoute, en ce moment, je m'excite avec JJ Mauser, là. Fait que, ouais.
Si bol.
C'est ça, il amène encore une excellente présence défensive, puis il s'est calmé un petit peu côté offensif, s'habitue au système, puis je suis sûr qu'à l'année prochaine, là, il va être encore meilleur.
Ben, faut que tu y laisses le temps, parce que c'est un peu à dire, mais avec l'Arizona, il fallait qu'il fasse beaucoup, dans le sens qu'il y avait pas tout le temps des gros éléments, puis avec les Sénateurs, il peut se permettre de vraiment se concentrer sur son rôle à lui. Ouais. Phil, j'ai quand même des bonnes nouvelles pour toi. Et je voulais te les partager. Là, est-ce qu'il y a un Leblanc qui travaille dans l'organisation des Sénateurs d'Ottawa? Il fait partie de la direction des CEO, genre.
Yes, Anthony Leblanc, je ne suis pas mal sûr.
OK, lui, il a fait une entrevue. Okay? Il a fait une entrevue avec The Athletic. Et là, ce que je veux te mentionner, c'est le fait que l'organisation des Sénateurs d'Ottawa a atteint une moyenne d'attendance, qui se traduirait par full, qui est au niveau de la dernière année où on a fait les séries éliminatoires, soit en 2016-2017. Donc, on a réussi à non seulement atteindre des plateaux qui étaient visés en début de saison, mais même de les dépasser. On parle aussi d'un objectif de 10 salles combes. On a atteint déjà les 15 salles combes. Financièrement parlant, ça va dans le bon sens pour les Sénateurs d'Ottawa.
Non, ça va clairement dans le bon sens. On a eu beaucoup de matchs, des sell-out cette année, ce qu'on n'avait pas eu depuis tellement longtemps, surtout avec les saisons COVID. Mais c'est tout ce qu'il fallait. C'est que Pierre Dorion nous montre qu'il est sérieux et il veut aller gagner. Il est allé chercher Debrincat, Giroux, Talbot. Il a fait des grosses acquisitions. Tout le monde, ils savent que là, les Sens, c'est la première année sans aucune restriction COVID dans l'aréna. Le monde veut l'acheter des billets, le monde veut aller voir les Sens. C'est une jeune équipe qui sont fun à regarder. Moi, je suis allé quand même souvent cette année, puis il n'y a pas un match qui m'a déçu. Fait que ça fait du sens, puis c'est vraiment très rafraîchissant, surtout en sachant qu'on a eu beaucoup de problèmes de attendance dans les dernières années. Ça n'a pas toujours été facile.
Est-ce que c'est méchant un peu, mais est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien avec le départ de John Melnick?
Ben, ça en a un, c'est certain. J'ai mon père, notamment, qui des fois parlait à des fans des Sens, il y en a littéralement qui disaient « Je ne reviens pas voir un match des Sens tant qu'Eugene Melnick est leur propriétaire. » C'était rendu à ce point-là. Juste la frustration de... Il ne voulait pas nécessairement dépenser de l'argent puis tout ça. C'est sûr que, d'une certaine façon, son départ a eu un impact positif sur l'équipe. Évidemment, on ne souhaite pas ça à personne. C'est aucunement ça qu'on dit. Mais c'est quand même, ça a amené des avantages, puis je pense que ça a quand même un lien quand même assez direct avec pourquoi il y a autant plus de monde qui viennent au Centre Canadian Tire cette année.
Bien, ça, puis peut-être aussi, tu sais, il y a eu des moves quand même assez agressifs, là, aller chercher de Brinkett, c'est quand même quelque chose, Claude Giroux, c'est quand même quelque chose, Jacob Chikrin, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'à l'époque de Eugene Melnick, on aurait dépensé comme ça? Je sais pas, là.
J'ai aucune idée. Honnêtement, j'ai aucune idée. C'est dès qu'il est parti que Dorion a signé le gros contrat de Norris puis de Stutzla. Maintenant, on dirait que ça l'a libéré. Il a le droit de dépenser de l'argent. Il est allé chercher Debrincat. Quand il est allé le chercher, je suis pas mal sûr qu'il savait qu'il faudrait qu'il donne autour de 9 millions s'il voulait le signer. Peut-être que Eugene Melnick n'aurait pas approuvé du tout cet échange-là, justement, en pensant au futur. Fait que c'est sûr, j'ai l'impression que ça l'a libéré Pierre Dorion d'une certaine façon, puis ça lui a permis définitivement de dépenser plus d'argent.
Mais en tout cas, une chose que je peux te dire, c'est que les finances vont bien, l'effervescence est à l'entour de l'équipe, donc ça l'augure bien pour tes prochains propriétaires, parce que c'est sûr que ça devient intéressant là, d'acquérir l'organisation des Sénateurs. Ouais, avec le nouvel aréna, puis si en plus tu rajoutes Ryan Reynolds qui fait des publicités, je sais pas trop, le LNH.com ou quelque chose de même.
Ben, il a vendu ses parts d'une compagnie de télécommunication, fait qu'il ouais. Il a récupéré 350 millions. En argent, fait que c'est sûr que c'est pas pour rien.
Non, il est sérieux, là. Il a été.
Ils sont rendus à phase 2, je pense.
Consortium. Consortium en français. Là, en tout cas, avec le groupe Remington, ils sont sérieux. Ils veulent acheter l'équipe. Puis lui c'est plus rendu juste quelque chose qu'il va dire sur le c'est quoi encore le show, là? Le show, là, tout le monde connaît
Jimmy
le show.
Jimmy Fallon,
le show, c'est ça. OK, c'est ça. Bon, son nom m'a échappé. C'est juste une petite joke, puis le monde en parle sur Twitter. Il est sérieux, il veut l'équipe. Ça serait incroyable de l'avoir. Il parlait déjà, il a déjà fait une série Disney+, sur c'est quoi être propriétaire d'une équipe avec son équipe de soccer dont il est propriétaire. S'il peut faire la même chose, ça peut juste encore plus améliorer les statistiques, les revenus de l'équipe, ça peut juste avoir un impact aussi.
Ah, puis projet du nouveau amphithéâtre, c'est sûr qu'avec lui, ça va sûrement plus pousser. Ben, ça pousse déjà quand même, là, mais je pense que c'est la cerise sur le Sunday.
Oui, exactement.
Hey, l'approche marketing de l'organisation, parce que moi, j'avais entendu la rumeur qu'il y avait déjà des discussions que s'ils achetaient les Saints, Disney allait avoir une série sur... Fait que, au niveau, là, la situation géographique, l'équipe performante, l'attendance aussi, puis là, t'aurais en plus un propriétaire qui est très connu, puis probablement que Daniel Alfredson pourrait avoir, je sais pas, c'est peut-être un investissement ou quelque chose dans le même là-dedans. Tu peux-tu me parler un peu rapidement le groupe Remington, tu me dis?
Ouais, c'est un groupe... j'oublie tous mes mots. Aujourd'hui, la vente de maison, real estate. En anglais, c'est un real estate.
Immobilier.
C'est ça, immobilier, merci. je connais pas beaucoup en dehors de ça. C'est Bruce Garriott, c'est vraiment la source principale pour toutes les informations sur la vente de l'équipe. Donc, n'hésitez pas à aller lire les articles de Bruce Garriott pour plus d'informations. Je vais vous en donner plus que moi, c'est sûr. Tout ce que je sais, c'est puis là, je pense que bientôt, il va avoir la genre de vente aux enchères. Puis là, ils vont garder certains groupes. Puis ils devraient au moins se rendre dans la phase 2, phase 3. Je ne sais plus trop c'est quelle phase. Mais c'est ça. C'est un groupe que je pense qu'ils ont déjà eu des connexions au niveau des équipes de hockey, mais ça n'a pas nécessairement marché. Ce n'était pas eux autres qui ont fini par avoir l'équipe au final. Mais c'est un groupe qui est sérieux. Puis avec un visage comme qui représentant en tant que Ryan Reynolds, ça serait l'idéal.
En effet. All right, fait que, ben, écoute, qu'est-ce qu'on vous souhaite là, pour les prochains matchs? C'est probablement des victoires et des victoires et des victoires pour espérer de pouvoir participer aux séries éliminatoires.
Ouais.
Et la santé pour vos gardiens, parce que franchement, c'est pas facile dernièrement.
On souhaite surtout des défaites des Pingouins.
Exactement. Et des Panthers. On n'a plus le droit à beaucoup de défaites. Là. Ça, en plus, je pense qu'on a comme... l'horaire le plus difficile qui reste selon Cap Friendly. Non, selon Pinkerton, je pense. En tout cas, c'est compliqué. Ça va être compliqué, mais les Suns ont l'air de mieux jouer contre les meilleures équipes. Toronto, Boston, les Pingouins, mais ils perdent contre les Vancouver, contre Chicago. Fait que j'imagine que c'est une bonne chose. On peut voir le positif là-dedans.
Exact.
Puis d'ailleurs, je pourrais te sortir une statistique contre Boston. Là, ton gardien Matt Sagar, il avait été solide. Je pense que c'est 943 d'efficacité contre les Bruins.
Ouais, c'était un gros bounce back. Ça faisait du bien à voir après vraiment des matchs difficiles. Là. Il se faisait battre de toutes les façons. Puis là, il y avait des rebonds qui n'allaient vraiment pas de son côté. Il avait été malchanceux à quelques reprises. Mais les buts qu'ils ont scorés, c'est une passe magnifique de Bergeron au Marchand à Jake DeBrusk, puis un déjoué en avant du net. Il n'y a rien à faire. Fait que dans l'ensemble, il a joué un très bon match, puis c'est le fun à voir, puis j'espère que ça va continuer. Parce qu'il y a juste lui. Je pense que Talbot va revenir bientôt, mais pour le moment, il y a juste lui. Et Dylan Ferguson. Faut pas oublier Ferguson.
Écoute, avec ses pattes bleues, là, il peut-être te sauver.
Yes, j'espère qu'il va y garder.
All right. Hey, merci beaucoup, Phil, puis je te souhaite une très belle soirée. Bonne chance pour les Saints, man.
Yes, merci, salut boys.
Phil.
All right, alors maintenant, ça va être l'heure de notre dose patate.
La dose à patate!
Bonsoir! Alors, voilà 2 semaines, j'ai été voir le Canadien jouer. Avec ce que semble l'équipe du Canadien cette saison, lorsque tu vas aller voir jouer, tu apprécies plus regarder l'adversaire. Je me suis dit, écoute donc, est-ce que le GPS m'a amené à la bonne place et m'a-t-il amené à Laval? Donc, j'ai regardé mes billets pour être sûr que ce n'était pas écrit « Le Rocket contre les Devils ». La game était plus qu'ordinaire. Tellement ordinaire qu'il y avait plus d'action sur la glace pendant les pauses publicitaires.
Ça, c'est méchant.
Les pauses publicitaires au Centre Bell sont incroyables.
Je sais pas, c'est bien rare, quoi, là.
C'est comme un peu Fort Boyard. Vous savez, à la fin des épisodes, tout le monde court un peu partout, prenne le plus de pièces possible avant que la grille se ferme. Eh bien, au Centre Bell, pendant les pauses publicitaires, c'est la même chose. Il y a une équipe qui embarque sur la glace, équipée chacun d'un scraper, et ils ont 2 minutes pour ramasser le plus de neige et la rapprocher vers la poubelle de plastique. Et le but est de ramasser, car ils ont 2 minutes pour le faire. Je vous jure, c'est fascinant. Les pauses publicitaires au Centre Bell valent le prix du billet, mon ami.
Ramasser de la neige comme ça, écoute, là, ça vaut la peine.
Oui, justement. Alors, parlant des gars qui patinent pendant les pauses publicitaires au Centre Bell, je pourrais penser à Jonathan Drouin. Enfin, ça pourrait être sa prochaine job. Quant à ne pas le faire patiner pendant un game et de l'avoir assis sur le banc, pourquoi pas l'utiliser pendant la pause publicitaire? Il pourrait enfin patiner à la hauteur de son talent. Il pourrait devenir le capitaine des meilleurs scrappeurs de neige pendant les pauses publicitaires. Comme on sait tous, Drouin a été puni pour avoir arrivé en retard à un meeting. Drouin a répondu que c'est seulement 2 minutes en retard et ce n'est pas beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, monsieur Drouin. Mais qu'est-ce qui est beaucoup? C'est de payer un joueur 5 millions et qu'il arrive en retard à un meeting.
C'est un bon point, ça.
Mais je doute de la véracité de la punition que Drouin a reçue. Vous savez, on l'a quand même amené avec l'équipe en Floride, restaurant, hôtel, et on lui a même payé le meilleur billet de l'aréna pour regarder la game.
Oh! Il était VIP, en effet.
Alors, c'est clair qu'avant de punir Drouin, M. Saint-Louis a agi comme une bonne maman qui parle à son enfant très mal élevé à l'épicerie. « Jonathan Nounou, si tu viens pas au meeting à 3, maman s'en va! 1, 2, 3! Jonathan Nounou, maman est partie! » Les joueurs du Canadien font des traits en bébé. Regarde la photo d'équipe qui a été prise cette semaine. On dirait une photo d'une classe de 6e année. Pour les faire sourire même sur la photo, ils ont appelé Youpi. Youpi a été envoyé pour les amuser. Finalement, il a fallu qu'il quitte assez tôt lorsque les joueurs se sont aperçus qu'il était incapable de faire des ballons en forme de chien saucisse. Heureusement, le sourire est revenu lorsqu'un joueur s'est assis sur un sac de pète. Ce fameux sac à pète, vous savez, le petit ballon en forme de boulette comportant un orifice qui, ma foi, ressemble à un anus. Et lorsque la victime s'assoit dessus, il se déclenche un effet sonore. Oui, mesdames et messieurs, une flatulence. Et le sourire est revenu pour la plus belle photo. Cette année, le Canadien, on s'en aperçoit à la télé, il ne remplit pas son aréna de 20 000 places. Mais ça n'a pas empêché l'Impact et ses grandes ambitions de remplir le stade olympique de 56 000 places. Oh. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière partie de l'Impact, ils ont gagné, tant mieux pour eux. Par contre, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Ils ont révisé un but et ils ont demandé la révision de la vidéo. Une double révision à leur avantage. Okay. Je n'avais jamais vu ceci dans ma vie. Je ne suis pas intéressé d'aller voir l'Impact en live. Pourquoi? car une partie de soccer n'a pas de pause publicitaire et je m'ennuierais beaucoup des gens qui seraient dans le match.
Oh,
allez, santé, mes amis.
Santé, mon ami. Puis on invite les gens à la maison à suivre Patate85 sur TikTok parce que tu as montré les gens qui ramassent la neige sur ton TikTok. Je m'en rappelle très bien. Hey, merci beaucoup, Patate. Passe une belle soirée à toi. Là, bye bye.
La dose à Patate.
Eh bien, mon cher, c'était ça pour ce qui est des nouvelles de cette semaine. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la prochaine semaine du côté des Blue Jackets?
Patrick des défaites. Je l'ai dit, les meilleurs games des Blue Jackets, c'est des Kakipels, genre 6-5. Tu sais, ils marquent des buts. Puis d'ailleurs, je vais les voir samedi contre les Canadiens de Montréal. Je vais être au Centre Bell. Fait que j'espère qu'on va avoir un bon match. Une défaite en prolongation des Blue Jackets, je serais correct. Mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'ils gagnent
pour battre les Canadiens. Mais oui, contre les Canadiens, c'est l'orgueil. Là, c'est...
Ouais, c'est ça. Là. Ça me dérange pas qu'ils perdent les autres, mais samedi, il faudrait qu'ils gagnent.
Ben, je te le souhaite bien, puis tu vas là-bas avec...
Avec ma copine et toute sa famille, dans une loge, on est...
Oh Seigneur, dans une loge!
Fait que on est... Là, c'est un cadeau qu'on a eu. Fait que c'est vraiment hâte de vivre ça. Voir Johnny Gaudreau,
en vrai. C'est vrai, ben oui.
Ben, je l'ai vu à Columbus, la fois que je suis allé au début de l'année, mais là, ça va être spécial de le voir à Montréal. Là.
Tu vas être déstabilisé d'entendre, là, mettons, les Blue Jackets qui comptent, pas de canon.
Ça va faire bizarre, ça va être plate. Le canon, c'est sûr que c'est un plus.
Ouais, ben écoute, je te souhaite un beau voyage à Montréal. Prévoyez un petit peu de temps d'avance parce qu'il y a plein de rues qui sont en construction.
Oh, on dort à l'hôtel proche, dans un hôtel proche du Centre Bell, fait qu'on est correct. J'espère juste que mon char il va sauver vos nids de poules.
Il y a des pas pires trous, effectivement. Ouais. Mais je pense que le trafic est assez intense, fait que ça, c'est à prévoir d'avance, mais vous êtes proche, fait que c'est bien parfait. Ouais. Je te souhaite une très belle game au Centre Bell, mon cher ami. Puis ben, une victoire des Blue Jackets. Moi, ça me dérangerait pas. Le Canadien peut bien descendre, ça me convient.
c'est bon. Soirée, là, bye. Bye.
Et pour vous à la maison, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, puisqu'on est présent entre autres sur Facebook, sur YouTube, Spotify, sur Twitter et nouvellement sur Instagram. Je vous invite à écouter la notif des sportifs à tous les mardis midi animée par Loric Salvaille. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle qui s'en vient assez intéressante concernant la notif des sportifs et ce sera très prochainement. Et le coin des rumeurs à tous les vendredis midi. Je vous dis un très grand merci d'avoir été là ce soir et je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye!